Voilà, désolé, je viens en choquer peut-être certains ou certaines. C'est en avance le premier dimanche de l'Avent. Le calendrier ne nous permet pas de commencer, officiellement. On va commencer plus tôt, voilà, pour les quelques. Vous savez, quand on arrive à la fin de l'année, on fait une petite pause et on fait les dimanches de l'Avent. On veut marquer sur un objectif spécifique. En suivi l'année dernière, c'était qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ qui était homme, qui était Dieu, et qui était homme et Dieu, et en quoi ça changeait dans nos vies. Et cette année, on va faire aussi dans un même fil rouge pour cet Avent 2025. C'est le que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et ça, c'est Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait, on l'a chanté. Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il est, on l'a aussi chanté. Et nous, on peut dire, sans m'avancer, je peux me dire à moi que nous, on a tous raté un plan. À chaque fois, on dit, bon, je vais passer au plan B. Il y a quelque chose qui n'a pas marché là. Il y a eu une erreur dans la préparation, quelque chose de dernière minute, quelque chose de pas prévu. Nous avons failli, quelqu'un d'autre a failli, bref. Le plan se passe pas comme c'était prévu, et donc il y a un plan B. Et on dit vite, un plan B. Est-ce que Jésus est le plan B de Dieu? Et ça, c'est une question. Est-ce que Jésus est un plan B? Que Jésus est venu à Noël? C'est ce qu'on va fêter à la fin de l'Avent. Parce que ça a été bricolé. Dieu, est-ce qu'il a fait quelque chose vite fait, en se disant, mince, il y a des choses que je n'avais pas prévues? Que parfois, en discutant même avec des frères et sœurs, ils disent oui, mais si Dieu le savait pas. Je veux dire, Dieu qui sait pas quelque chose. Dieu sait. Et c'est pour ça, avec ces quelques dimanches, on va se retrouver. Dieu a un plan et on va montrer au travers la Bible que Jésus n'est pas un plan B de Dieu. Dans la vie chrétienne, parfois nous, on a nos plans B malgré, en tant qu'enfants de Dieu, on dit Dieu a un plan pour nous et parfois on met nous-mêmes nos propres embûches au plan de Dieu. On dit Dieu, conduis-moi là, mais si c'est pas le plan de Dieu, et on est nous-mêmes parfois ceux qui font dérailler le train. Et Dieu n'est pas ainsi. Le plan de salut que Dieu a préparé d'avance, c'était pas un plan B. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas déçu. Dieu, il peut être attristé. Mais il ne peut pas être déçu ni surpris parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Ça, c'est, je vous renvoie à David et tous ses psaumes qui disent, voilà, tu sais de quoi je suis fait. Mais Dieu a installé un plan, merveilleux plan, qu'on va voir les grosses lignes ensemble pour cette année. Le plan de Dieu. C'est un plan de salut. Et c'est un plan qui annonce que Dieu n'est pas surpris par la chute de l'homme. Dieu n'est pas déçu par l'homme parce qu'il le savait. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et donc Dieu, nous allons voir comment, pendant ces quelques semaines où on sera ensemble, on va voir comment Dieu aime profondément et puissamment sa création, au point de vouloir sauver chacun d'entre nous, par un plan qui était de toute éternité. Et ça, c'est assez incroyable. Souvent, on prend ça pour acquis, mais quand on le prépare, quand on médite ces choses, eh ben, comme on l'a chanté, on peut que venir adorer, louer l'Éternel. Donc ce matin, on va voir les deux premiers grands moments où Dieu nous montre qu'il a un plan. Le premier, c'est la descendance ou un descendant. Directement au début de la Bible. Le début de la Bible, tout est beau, hein, les premières pages. Ça dépend de la taille de votre Bible, mais disons que ça s'étale pas sur beaucoup de pages où tout est bien. Rapidement, ceux qui connaissent un peu, qui ont un bagage un peu chrétien, il y a ce qu'on appelle la chute. Rapidement, les choses partent pas bien. Et rapidement, il y a quelque chose qui malheureusement, un test qui échoue. Et c'est là qu'on va voir directement où Dieu n'est pas surpris. Et malheureusement, après avoir placé Adam et Ève dans des milieux très beaux, un jardin, une perfection, ceux qui connaissent l'histoire, vous savez où je veux en venir, hein. Et Adam et Ève peuvent tout faire, sauf une seule chose, ils ne peuvent pas manger du fruit, du bien et du mal. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui connaissent l'histoire, sinon je vous la raconte, c'est que malheureusement, ils vont céder à la tentation du serpent et Adam et Ève vont prendre ce fruit. Et à partir de là, c'est pas le but de ce matin, mais à partir de là, toutes les relations vont être perturbées. Absolument toutes. Et la première et la plus importante, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Sous l'impulsion du serpent, ils vont agir d'eux-mêmes, ils vont écouter ces mensonges. Et Dieu vient voir les hommes, le premier couple, et leur dit « Où es-tu ?» Voilà, le célèbre « Où es-tu ?» et Adam qui était caché. Et on retrouve ce passage dans Genèse 3, 13, 16. Premier passage, ce dialogue qui nous est rapporté, où là, ça va pas bien se passer. L'Éternel, Dieu, dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» Parce qu'elle a mangé du fruit. Elle accuse le serpent. Elle dit « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Alors là, on a un dialogue assez triste. C'est-à-dire, on a un dialogue de rupture, où Dieu va juger la femme, admet sa faute sous l'influence du serpent, et avant Adam met la faute sur la femme. Il dit à Dieu quelque part, c'est ta faute, parce que tu m'as mis une femme, donc voilà, c'est chacun se renvoie la balle. Ça n'a pas beaucoup changé en plus de 2000 ans d'humanité, enfin même plus de 6000 ans d'humanité, ça n'a pas beaucoup changé. On se renvoie toujours la balle, c'est jamais vraiment de notre faute. Et la femme dit, ouais, mais ça c'est la faute du serpent. Moi, j'y suis pour rien, quelque part. C'est lui qui m'a dit, et je l'ai couru. Et j'en ai mangé. Et sous cette influence, eh ben, on perd la relation qu'il y avait avec Dieu. Alors, Dieu juge. Dieu, il peut pas laisser le péché. Donc, Dieu va juger la création. Ainsi, entachée maintenant par le péché. Mais il y a ce verset 15. Ce verset 15 qui, en le préparant, vous voyez, Dieu, il va rentrer en jugement avec sa créature, et avec sa création, malheureusement. Dieu, il les juge, parce que lui seul sait ce qui est bien et mal. Mais Dieu ne laisse pas l'homme sans espérance. Dans ce verset 15, il va dire « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, parle au serpent, et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon, ou tu lui mordras le talon. » Les traductions sont équivalentes. Dieu est en train de dire, voilà, à travers la difficulté que maintenant vous allez rencontrer, hein, parce qu'il va y avoir tous les jugements, l'homme qui est chassé, l'homme et la femme qui sont chassés du jardin, de la présence de Dieu, il va y avoir la difficulté d'enfanter, la difficulté de trouver la terre qui va être difficile, qui va falloir travailler maintenant beaucoup plus dur. Et il va y avoir une animosité maintenant dans toutes les relations, la femme et le mari et Dieu, tout est bouleversé, mais au travers tout ce qui peut être un peu noir, tout ce qu'on dit, waouh, c'est terrible maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu montre qu'il a déjà suscité un plan. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une lueur, ce que les théologiens appellent ça le proto-évangile. Il dit, je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu, il va pas construire un plan à la va-vite. Il est en train d'annoncer quelque chose, une bonne nouvelle quelque part. C'est pour ça le nom de proto-évangile. Il dit à la femme, il dit au premier couple, il y a quelque chose de brisé. Mais, un jour, dans une postérité, il y en a même qui, on peut traduire la postérité, c'est-à-dire que ce serait quelqu'un de particulier, un enfant particulier, écrasera la tête de ce serpent. Même si, effectivement, il pourra le blesser, ce serpent sera écrasé. Et quand on écrase la tête de quelqu'un, c'est l'ennemi foulé sous le pied. Hein. On connaît cette expression biblique, on la retrouve de temps en temps. Il aura l'ennemi foulé sous ses pieds. Enfin, il pourra mettre la tête de l'ennemi. C'est la grande humiliation du vainqueur. Hein. Mettre le pied sur la tête de quelqu'un. C'est-à-dire que cet ennemi n'a plus aucune force. Il est complètement dépouillé. Et cela montre une espérance, un faisceau de lumière au milieu de ces ténèbres qui sont maintenant là. Dieu ne bricole pas vite fait en disant « Mince, ils ont raté mon test. Mince, ils ont écouté le serpent. » Peu importe ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'est pas surpris. Il n'est pas étonné. Il avait déjà prévu qu'au travers cette désobéissance, au travers cette chute, il susciterait une descendance. Et Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà une bonne nouvelle. Alors bien sûr, hein, tout n'est pas encore ficelé. Dieu se révèle. Mais il dit, il y a une descendance, il va y avoir quelque chose dont ce serpent un jour n'aura plus la force. de faire ce qu'il a fait. Un jour, ce serpent sera remis en place. Un jour, quelque chose va se passer. Quelqu'un, une descendance, un descendant, va écraser cette tête de serpent. Celui qui vous a corrompu, celui qui a laissé entraîne mal, et il va apporter quelque chose de nouveau. Si on est libéré d'un ennemi, si l'ennemi est vaincu, il a été prié. Si l'ennemi est vaincu, alors nous sommes vainqueurs au travers celui qui l'a vaincu, si nous acceptons. Vous voyez, parfois, et là je parle pour moi, j'avais du mal à comprendre le Dieu des Écritures, le Dieu de l'Ancien Testament. Je le trouvais, j'avais du mal à voir la grâce, mais parce qu'on ne sait pas toujours lire où est la grâce. Dans le jardin d'Éden, il y a le péché, il y a Dieu. Il y a eu la chute, et le péché et Dieu cohabitent, parce que Dieu met sa compassion, son amour, sa grâce en avant, malgré le jugement. Oui, il y a un jugement. Oui, ils sont chassés, mais ils auraient dû mourir. Le péché et Dieu ne peut pas être compatible. Mais si on lit bien, si on prend bien le temps, on se rend compte à quel point Dieu nous aime. Et ça, c'est assez incroyable. Pour se dire que Dieu a décidé, dans sa sagesse, de préparer quelque chose d'incroyable, de préparer toute une création, de préparer un endroit, l'Éden, hein. Aujourd'hui, les gens disent, ah, c'était un vrai jardin d'Éden, c'est-à-dire que c'était formidable, un vrai petit paradis sur terre, toutes ces expressions qu'on connaît. Il prépare tout ça, et il sait pourtant que l'homme va refuser cet amour, que l'homme va refuser. Et Dieu décide, dans sa sagesse, de quand même faire tout ça. Personnellement, en tant que... Alors moi, je suis scientifique, on fait parfois des expériences. Si je sais que l'expérience, elle va rater, et que je peux y perdre quelque chose, je la commencerai jamais. Si vous savez que vous avez raté quelque chose en investissant, vous le faites pas, en fait. Et là, ça montre à quel point Dieu ne réfléchit pas de la même manière que nous. Ça montre à quel point Dieu aime cette humanité, et que malgré la chute, Dieu avait déjà un plan. Et cette descendance, ce fils qui va écraser le serpent, pour nous, on y voit déjà que Christ n'est pas un plan B, mais c'est le plan de Dieu qui était déjà prévu d'éternité. Et ça peut nous rassurer. Aujourd'hui, le serpent use toujours des mêmes ruses. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que t'es sûr que là, il t'enferme pas dans quelque chose? Ça, c'est bon pour toi, ça. Et puis, t'as pas le droit de le faire. Et il n'en change pas. Notre cœur n'a pas changé. Pourquoi il changerait de ruse? Il veut transformer cet amour incroyable, infini que Dieu, en obligation, en privation. Des fois, quand on discute avec des personnes qui ne sont pas converties, « Oui, mais si t'es chrétien, tu dois faire ça, faire ça, faire ça, plus faire ça, plus faire ça. » Et on n'y voit qu'une longue liste de choses qui nous empêchent de vivre. On dit « Moi, je pourrais jamais faire ça. » Et on voit Dieu comme un espèce de père fouettard ou un geôlier qui nous tient. Hein. Voilà, maintenant que t'es chrétien, tu viens là, tu t'assois là et c'est tout. Et ça a toujours été. Ça a toujours été. Et malheureusement, notre cœur, des fois, il cède. Oui, c'est vrai. S'il y a Dieu qui est là, s'il m'aime vraiment. Oui, mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui veut notre bien. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui prend soin. Et il est là dès le début de l'humanité, dès le premier péché. Il était déjà là dans sa grâce. J'ai eu du mal à le voir, personnellement. J'avais du mal à voir cette grâce, j'avais du mal à voir cet amour. Mais en fait, elle est déjà là. Il est déjà là. Le Dieu des Écritures, c'est le même Dieu de Nouveau Testament. Il a donné une espérance incroyable, et je pense que c'était nécessaire, vous imaginez, sinon vous dites, ce que vous avez vécu, vous ne vivrez plus jamais. Ça va être terrible. Mais là, il dit, c'est brisé, mais ça ne le sera pas toujours. Il y a une espérance. Il y a une relation brisée qui pourra être réparée. Et je trouve ça très beau. Une relation brisée qui va pouvoir être réparée. Dieu avait un plan et Jésus n'était pas un plan B. Donc on a déjà toute cette descendance et en avançant dans la Bible, on arrive à l'appel d'un homme, Abraham. Voilà, on a eu toute l'histoire de Babel, toute l'histoire du déluge. On voit que le mal n'a fait que augmenter. Il y a eu, bien sûr, des gens qui louaient Dieu. Il y a eu une partie de l'humanité qui reconnaissait Dieu. Mais un monde sans Dieu n'est pas mieux. Hein. Quand on lit les débuts de la Bible, on voit que c'est pas mieux. Et un jour, Dieu met en route son plan. Il appelle Abraham. Toujours un lien avec ce plan de Dieu. Abraham qui grandit, qui fait un grand peuple en Israël. Israël qui grandit en Égypte. Israël qui est esclave en Égypte. Et Israël qui est libéré de l'Égypte par Moïse. Et là, Moïse dit quelque chose d'assez incroyable. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, le Deutéronome, donc dans le Deutéronome. Deutéronome, Moïse, c'est la fin de sa vie. Hein. Alors pas parce qu'il est malade, parce qu'il sait qu'il verra pas le pays promis, mais il va dire à toute cette génération qui n'a pas vu le Sinaï, parce que vous savez qu'ils ont tous été condamnés à errer à 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent, de vieillesse. Mais Moïse, lui, il avait rien, il était encore en forme, et il va redire la loi, d'où le nom de Deutéronome. C'est pas une deuxième loi, c'est la copie de la loi. En fait, il redit les paroles, ça c'est le nom en hébreu, c'est Devarim, c'est les paroles. En fait, Moïse dit, je vous redis les paroles, vous qui n'étiez pas là. Vous qui n'avez pas assisté, je vous redis ces paroles, et ça c'est ce qu'on trouve dans Deutéronome 18, 15, 19. Là, il leur dit, hein, il dit au peuple qui s'apprête à prendre possession du pays, il dit, quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. Car ces nations que vous allez déposséder, écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. C'est cela qui est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur transmettra tout ce que je leur ordonnerai. Et si quelqu'un refuse de l'écouter ce qu'il dira de ma part, j'en demanderai compte moi-même. Voilà, pardon. Voilà, Moïse, voilà, il répète ses paroles, comme je le disais. Il sait que lui, il va pas aller dans le pays. Il veut surtout, surtout qu'il se souvienne. Hein. Vous savez que nous, on a des cœurs oublieux. Et le cœur du peuple est le même que le nôtre. Hein. Parfois, on est un peu... Quand on lit, on dit, oh punaise, comment ça se fait qu'ils ne croient pas avec tout ce qu'ils ont vu. Moi, j'aurais pas fait comme ça. On n'est pas sûr, en fait. Parfois, le Seigneur fait de grandes choses pour nous. On a vécu des bons moments, on a vu des grandes choses. Et quelques heures après, on se comporte d'une manière totalement en dehors de son plan. Ne pensons pas qu'ils étaient inférieurs ou différents. Ils ont le cœur pareil. Paul dira, tout ce qui a été écrit pour vous aussi. Hein. C'est pas parce qu'il est l'homme, il n'a pas changé, le cœur n'a pas changé. Donc faites attention à ce qui est écrit, parce que ça nous sert de leçon. Et voilà, il va rappeler les termes de l'Alliance, et au milieu de tous ces termes, il dit, il va parler d'un prophète. D'un prophète, c'est spécial, parce que il va dire, c'est Dieu qui va susciter un prophète parmi vous. Il annonce un événement d'importance incroyable, il y a un prophète qui va sortir du peuple, et c'est un prophète qui aura des paroles, et là ça fait écho avec le nom du livre, hein, qui s'appelle Parole, Parole de Dieu, dans sa bouche. Et ces paroles vont diviser en deux, ceux qui vont l'écouter et ceux qui vont pas l'écouter. Et après, ceux qui lisent la Bible et qui connaissent, et qui des fois sont un peu tatillons, hein, vous savez que souvent les ennemis de la Bible sont plus tatillons que nous sur la Bible, hein, ils vont creuser pour voir les petits problèmes. Et là, il y a un problème, parce que quand on va plus loin dans Deutéronome 34, 10, qui est la fin, presque la fin du Deutéronome, il dit « Au sein du peuple d'Israël, il n'y a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. » Aucun ne fut son égal avec tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel l'avait envoyé accomplir en Égypte devant Pharaon, devant ses ministres et devant tout le peuple, pour tous les actes de puissance et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Plus jamais de prophète en Deutéronome 34-10. Et pourtant Moïse annonce un prophète comme lui. Et à la fin du livre, on nous dit non, il n'y a jamais eu de prophète comme lui. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il se contredit, Moïse se contredit, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas moi qui le dis, hein. Mais c'est tous les gens qui ont pensé aussi ce texte, c'est qu'il y a une grande différence entre la veine prophétique qui va sortir du peuple, donc tous les prophètes qui vont venir après Moïse, il va y en avoir un paquet, qui vont avoir un rôle de ramener le cœur des rois à l'Éternel, tous ces gens, Ésaïe, Jérémie, Michée, voilà, tous ces gens-là qui sont prophètes, mais qui ne seront pas le prophète que Moïse annonce. Moïse, il annonce un prophète spécial. Il annonce ce qu'on appelle le prophète. Pas un prophète, mais le prophète. Un prophète qui est très particulier, un prophète qui va faire les mêmes choses que lui. Et c'est Dieu lui-même qui va susciter ce prophète, du milieu du peuple. C'est Dieu qui va lui donner ses paroles. C'est dans un temps précis. C'est un prophète qui va marcher selon son intégrité. Et là, la Bible fait la différence entre les prophètes et un prophète particulier. Un prophète qui va faire ce que Moïse a fait. Et il n'y en a pas beaucoup de Moïse qui ont fait comme Moïse, qui ont fait des grands miracles, qui ont sorti un peuple de l'esclavage. Nous, ça fait écho un peu parce que ceux qui ont grandi dans le milieu chrétien ou qui connaissent un peu, nous, on connaît un exil encore plus grand que celui que l'Égypte. Ça nous rappelle quelque chose, ça résonne. On se dit oui, ben tiens, ça nous rappelle quelqu'un. Si Moïse annonce la venue d'un prophète comme lui, Moïse, il n'a pas menti. Il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il annonce un prophète qui va faire pareil que lui, qui va faire de grands miracles, qui va nous libérer de l'Égypte morale, de l'Égypte du péché. Ben, c'est Christ. Ça va être le prophète. C'est celui qui est prophète dans toute la plénitude. C'est lui qui va faire ce que Moïse a fait. Parce qu'il a dit comme moi, c'est-à-dire qu'il va faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il va donner une loi. Quand il va monter sur la montagne, quand on lit Matthieu, Matthieu 5 à 7, 8, ouais, le sermon sur la montagne, il monte sur une montagne et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la loi. Ben, il fait comme Moïse. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il dit, moi je peux vous sortir de ça. Il y a quelque chose, on doit sortir, on doit partir, on doit faire un exode de ce monde. Il propose la conversion, et revenir à lui plutôt qu'au monde. Le prophète de Dieu qui va avoir un ministère très spécifique, qui va avoir des paroles de Dieu en étant Dieu lui-même. Alors là, bien sûr, c'est pas dit, mais il va y avoir une relation très particulière entre Dieu et ce prophète. C'est un prophète qui va diviser. Et ça fait écho aussi, quand Moïse dit « écoutez-le », ça fait écho au baptême. Quand Jean-Baptiste baptise Jésus, il y a la voix qui vient du ciel. « Voici mon fils, mon ami, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Il y a un rappel comme un écho de ce qu'annonçait Moïse. Écoutez-le, ce prophète. Très spécifique, comme annonce. Je vais susciter un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles. Et ce qu'il va faire va diviser. Ce qu'il va faire va diviser. Ce qu'il va faire va changer. Comme Moïse a bouleversé son époque, Moïse à lui tout seul, c'est un homme qui a sorti un grand peuple, qui a mis à genoux la plus grande puissance du monde, en étant représentant de Dieu, hein, bien sûr. Il a fait sortir d'Égypte ce qu'on croyait impossible au travers une mer asséchée. Alors déjà, nous, on a du mal à assécher quand il y a une flaque d'eau, mais là, vous imaginez une mer qui s'est fendue en deux et qui est sèche. Les gens sont passés à sec. D'ailleurs, il faut de la sacrée puissance. Hein. Des fois, on lit ça vite fait, mais on se dit, voilà, c'est des miracles qui ont bouleversé au tel point que 40 ans plus tard, quand Josué va arriver à conquérir le pays, les gens ont encore peur de tout ce qui avait été fait en Égypte. Ça a fait écho dans le monde autour. On dit, mais quoi, l'Égypte qui était tellement puissante, elle n'est plus rien du tout. Moïse, de son époque, a transformé, le Dieu de Moïse a fait peur. Moïse et son Dieu ont effrayé, ont coupé le monde en deux en disant ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et les gens avaient peur de l'Éternel. Mais Moïse annonce le prophète qui sera comme lui. Un prophète qui va briser l'Égypte du moral, l'Égypte du péché. Vous savez, l'Égypte, ça représente souvent le péché, l'immoralité, l'idolâtrie, tout ce qui nous englobe si facilement. Et il faut une puissance supérieure. On va bien le voir si vous connaissez l'histoire, malheureusement, d'Israël. Ça n'a pas suffi de sortir de l'Égypte. Il fallait quelque chose en plus. Il fallait quelque chose, une action de l'intérieur. Et là, encore une fois, Dieu n'est pas surpris. Dieu, il aime son peuple malgré cette désobéissance. Il sait que malgré l'Exode et malgré la loi, son peuple ne va pas rester comme il devrait le faire. Il sait déjà tout ça d'avance, ça n'empêche pas le plan de se passer. Le prophète comme Moïse, ça va être Jésus qui va accomplir tout ce que Moïse a fait, mais de manière beaucoup plus universelle. C'est pas un peuple spécifique qui va sauver, c'est tous ceux qui décideront de le suivre. Il va former un peuple, un patchwork de peuples, de tous ceux qui voudront faire de Jésus-Christ son Sauveur et Seigneur, qui m'a sorti d'une Égypte d'autant plus importante que je suis pas fouetté, que je fabrique pas des briques, que j'ai pas l'impression d'être un esclave. Si vous interrogez des gens autour de vous qui ne sont pas croyants, ils n'ont pas l'impression d'être enchaînés par quelque chose. Ils sont libres. Mais en creusant un peu, on voit bien qu'ils ne sont pas libres, ils sont souvent rongés par d'autres choses, esclaves de quelque chose. Et c'est ça qu'est venu faire Jésus. Il est venu libérer d'une Égypte spirituelle. Et Dieu n'est pas surpris. Et il laisse encore un faisceau de lumière au travers tout ce qu'il y a eu, au travers cette loi, au travers tout ce qu'il y a déjà eu de bon. Il dit, mais il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir. C'est pas pour maintenant, tout n'est pas encore révélé, mais il y a quelqu'un qui va venir, une fois pour toutes. Parce que la loi ne suffira pas, la loi ne peut pas. Et d'ailleurs, Moïse est très lucide. Si vous lisez la fin du Deutéronome, il dit, de toute façon, tu vas pas réussir à faire ça. Tu t'engages là, mais tu réussiras pas, parce que sur le long terme, on peut pas réussir. Regardez combien d'entre vous ont tenu leur bonne résolution de 2024, 2025. On est plein d'entrain au début. Mais avec le temps, si on est tout seul, ouais. On veut faire, on veut bien faire, mais on s'épuise. On a besoin d'une libération intérieure. Et Dieu sait de quoi l'humanité est faite, donc Dieu sait. Et que ça soit lors de la chute, lorsque le péché a pris place, que ça soit cette corruption qui s'est intégrée. J'avais un des profs qui disait le péché, c'est comme un cancer qui est venu ronger la création de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, il l'a arrêté à un moment donné. Il a dit, maintenant, tu n'iras pas plus loin. Le péché arrêtera sa corruption, sinon on serait tous, on pourrait pas être sauvés. Il a fallu mettre en place ce plan. Et malgré ça, il va continuer dans sa grâce à préparer la venue de celui qui va répondre à tout ce qu'on va voir. Parce que Dieu n'est pas limité par notre pensée. Alors on disait, est-ce que Jésus c'est le plan blé de Dieu? Eh bien non, on peut affirmer que non, c'est le plan de Dieu. Aussi fou que ça peut se paraître, c'est ce que dira Paul, la folie de Dieu et la sagesse, parce qu'on peut pas comprendre ça. Je veux dire, humainement, je le comprends pas, et je pense que c'est bien qu'on comprenne pas Dieu. Il y a des fois, il y a des choses qui vont nous dépasser dans sa manière d'agir, mais c'est incroyable. Et en préparant tous ces plans, en préparant tout ça, on se dit, mais à quel point Dieu nous aime? À quel point Dieu nous aime? À quel point Dieu t'aime malgré tes fautes, malgré le péché? À quel point il m'aime, moi? À quel point il nous aime? À quel point il aime son Église? Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et des fois, on se dit, ça passe vite. On lit vite. Mais il se passe des choses tellement grandes. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité dans ce qu'il va faire. Dieu va donner ses paroles. Et c'est comme un écho. Écoutez-le. C'est un impératif. Écoutez-le. Vous allez devoir écouter celui qui va venir de chez vous. Vous allez devoir l'écouter, et c'est ce qui va donner cette espérance messianique. Je veux dire, les gens qui ont lu la Bible, qui l'ont médité les premiers, c'était le peuple juif, et le peuple hébreu, ils ont vu ça, ils ont vu qu'il y avait quelque chose, et ils attendaient, parce qu'ils savaient, malgré eux, que cette loi les sauverait jamais, ceux qui étaient les plus lucides, en tout cas. Et ils attendaient ce Messie qui serait capable, lui, de le faire, parce qu'on avait besoin de lui. Et aujourd'hui encore, c'est ce qu'ils attendent, malgré la loi, certains attendent encore un Messie qui vienne mettre fin à ça, parce que c'est trop difficile à porter. Faut porter les 613 commandements, c'est dur. Et nous, parfois, on attend Jésus, mais de loin, en disant, toi, faut que je finisse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, tu pourras venir une fois que j'aurai fait ça. Alors, c'est humain, hein. Mais est-ce qu'on a cette espérance que de cette libération? Écoutez-le. C'est là le plan de Dieu pour vous, pour moi, pour toi, ce matin. Écoute ce que Jésus a dit. Et pour cette première conclusion, on peut dire, dès le début de la Bible, on voit et on prend conscience que Dieu nous aime. Ça, c'est pas toujours évident à voir, mais si on lit assez vite, on y voit. Je parlais avec un qui n'était pas chrétien, qui avait lu la Bible, il fait « Ouais, c'est un Dieu violent, que de la guerre, que de la violence, tout le monde doit mourir. » Mais parce qu'il a pas lu, en fait. Il a juste lu ce qu'il voulait l'entendre, lire et puis avoir des arguments pour dire qu'à quel point moi je louais un Dieu qui était méchant. Mais quand on prend le temps de lire et quand on prend le temps de regarder, on voit à quel point Dieu nous aime. On voit à quel point que Dieu avait déjà prévu. Il a bien plus sage, il a bien plus d'amour, bien plus de grâce que nous pouvons l'imaginer. Malgré ce que nous souffle l'ennemi, Dieu nous aime pas, là il t'aimera plus. Là t'as fait ça encore une fois, c'est fichu. On l'a tous entendu, hein. Peut-être je suis le seul. T'es encore tombé là-dedans? Là, c'est fichu. Là, c'est fini pour toi. Et tu te dis chrétien? Et Dieu veut se présenter ainsi pour que, en retour, nous faisons ce qu'on a fait ce matin, et ce qu'on fait aussi, des fois en famille, tout seul, le louer, l'adorer, le prier. C'est ça qu'il attend. Parce que la création était faite pour ça au départ. Et in fine, à la fin, c'est ça qu'il y aura. Qu'on le veuille ou non. Humainement, ce plan est merveilleux et il débute dès les premières pages. Mais il est incroyable. Personnellement, comme je dis, j'ai été ému par la compassion de Dieu en préparant ça. J'ai été touché. Pourtant, on a grandi dans un milieu chrétien. Après, on s'est dit, ouais, on a compassion. Mais c'est incroyable à quel point Dieu prend soin de nous. Moi, j'aurais laissé tomber, mais heureusement, je suis pas Dieu. Hein. Mais c'est incroyable, ça. Je veux dire, à quel point Dieu nous a aimés après tout ce qu'on fait. Et à quel point il avait déjà décidé. Et c'est ça que je voudrais nous laisser, hein, qu'il avait déjà décidé un plan. Et ça, c'est Éphésiens 1 à 7 à 10. Alors, je vous conseille toute la lettre d'Éphésiens, au moins les trois premiers chapitres qui sont formidables, mais qui nous mettent aussi au quatrième chapitre face à ce qu'on est. Éphésiens 1, 7 à 10, voilà Paul, ce qu'il écrit à cette église, il dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant la pleine sagesse et la pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan qu'il a fixé d'avance dans sa montée en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. » Et je trouve assez incroyable que, voilà, Paul leur dit, ce plan, cette incroyable croix, ce sacrifice, cette résurrection, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu n'a pas fait ça, n'a pas bricolé vite fait un truc en disant, mince, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, tu veux, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il avait déjà annoncé, posé des jalons, mettre une espérance au fond des cœurs. Parce qu'un cœur sans espérance est un cœur qui va disparaître. Dieu n'a pas révélé tout de suite, mais il a donné suffisamment d'un faisceau de lumière qui va pointer sur Christ, qui va traverser la parole, qui va pointer sur Christ. Et depuis Christ, il éclairera tout le reste. On a un point focal sur la croix. Et je trouve ça incroyable, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Il dit, voilà, ce plan, il était fixé d'avance. Il était fixé d'avance. Il ne l'a pas fait que pour vous, il ne l'a pas fait parce qu'il fallait sauver les Éphésiens, il l'a fait pour sauver toute cette humanité qui avait besoin d'être sauvé depuis cette chute, depuis le jour où on a accepté, où nos parents ont accepté d'écouter le serpent. Mais à chaque fois qu'on l'écoute, à chaque fois qu'on se laisse séduire, on se rend compte à quel point la croix était nécessaire. Parce qu'en comptant sur nos forces, on n'aura jamais pu s'en sortir. D'où ce besoin de petite lumière. Et on verra que Jésus n'est pas seulement ça. Voilà, je laisse la deuxième partie un peu en teaser, on verra là. Semaines qui vont suivre, on verra ensemble que Jésus est aussi cette descendance, il est aussi ce prophète. On va voir qui va être ce roi, il va être ce fils, et va être celui qui va s'incarner dans notre humanité. Vraiment, là qu'on puisse vraiment s'imprégner de tout cet amour que Dieu a pour nous. Et quand l'ennemi nous fait douter de cet amour, que nous puissions nous rappeler. Qu'on puisse nous rappeler que c'est tout ce que Jésus-Christ a fait aussi pour nous. En disant, un amour si incroyable, mais il est complet. Et si Dieu nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser? Alors ça ne veut pas dire, c'est sûr, si vous demandez une nouvelle voiture ou 3 millions de dollars, c'est sûr, on est d'accord, hein, mais on va parler de demander selon le cœur de Dieu.